Le journal Belinda Bosuma.
Au sommaire de ce journal, clôture hier des états généraux des mines, le gouvernement congolais promet de publier jeudi prochain le rapport de la commission chargée de réviser les contrats miniers. Dans ce journal, le point de vue du ministre provincial des mines du Katanga, ainsi que la réponse du ministre des mines sur la révisitation de certains contrats. Et puis au Kasaï oriental, un creuseur clandestin broyé ce week-end par une machine de l'usine de la minière des Bakwangamiba. C'est un reportage à suivre dans la seconde partie de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Le code minier n'a pas amélioré la vie des Congolais comme attendu. C'est l'une des conclusions des états généraux des mines clôturées hier soir à Kinshasa. Ces assises de 5 jours ont regroupé les opérateurs miniers, les ONG et les services de l'État. L'objectif était d'évaluer le code minier et ses applications. Le constat est amer. Les services étatiques se sont montrés défaillants dans l'application de cette loi. Des mesures urgentes s'imposent. Georges Kamoudjova.
Mesures urgentes ou immédiates. Tout le monde est d'accord, il faut sauver la situation, d'abord par la lutte contre le gel des titres et carrières miniers. Sur 4500 permis de recherche, seules une dizaine sont arrivées à l'exploitation. Les titulaires défaillants seront déchus, promet le gouvernement. Ensuite, il faut identifier ceux qui exploitent frauduleusement et évaluer le capital de l'État dans certaines sociétés minières. Mais il faut surtout contrôler les ressources elles-mêmes. L'établissement d'un certificat de type Kimberley s'impose pour les autres matières comme cela se fait pour le diamant. Cette mesure est à accompagner avec la mise en place des marchés boursiers de diamants et d'autres substances minérales. Une initiative amontée par les privés et dont le but est la transparence. Pour voir encore plus clair, l'urgence exige qu'il y ait une structure qui coordonne la lutte contre la fraude minière et la contrebande. Pour réussir un tel pari, les différents services de l'État doivent œuvrer ensemble pour éviter aussi les conflits fonciers.
Entre-temps, l'autre résolution de ce forum est de déterminer des zones où les creuseurs artisanaux peuvent exploiter sans problème. Cela nécessite que les tâches soient bien claires entre le gouvernement central et les provinces. Les provinces, quant à elles, réclament de plus en plus leur implication dans la gestion des espaces miniers. Barthélémy Mumba Gama, ministre provincial des mines au Katanga.
Il est attendu du secteur minier vraiment la création de la richesse et le soutien aux infrastructures. C'est pourquoi il est important que l'on puisse penser à transférer ce qui est dû aux entités de base et à la province pour que l'on puisse sentir les développements à la base et que l'outil de production soit amélioré, que les conditions de protection dans les secteurs du travail soient améliorées, que les conditions même sociales de vie de ces artisanaux soient améliorées. Voilà ce que nous attendons de ce secteur-là. Et il faut que ce secteur aussi puisse contribuer aussi au respect du pays. C'est pour ça que beaucoup ont réclamé que les services qui encadrent les creuseurs, les sept-camps, soient sous l'autorité provinciale et que l'exploitation artisanale soit provinciale.
La grande question que se sont posées les participants est aussi celle de savoir si les différentes résolutions seront vraiment suivies. Ils ont reçu à ce sujet l'assurance du gouvernement. Ce dernier qui promet également de publier jeudi prochain le rapport de la commission chargée de réviser les contrats miniers. Ce rapport est attendu depuis plusieurs mois et c'est le ministre des Mines qui l'a annoncé hier soir. Martin Kabouéloulou va-t-il annuler certains contrats? Écoutez sa réponse.
Bon, frapper, ce n'est pas ça notre intention. Hein. Nous n'avons pas accepté des entreprises ici pour que plus tard on puisse l'échapper. Nous voulons que, avec la renégociation, je vous ai dit que nous allons publier d'ici jeudi le rapport détaillé et final de la commission. Ce n'est pas le rapport du gouvernement. Ça, il faut bien vous en rendre compte. Ce n'est pas le rapport du gouvernement, c'est le rapport de la commission. Et les entreprises que nous allons inviter maintenant, c'est le gouvernement qui va faire ce travail, nous allons voir si nous allons nous entendre avec eux. Celles avec qui nous allons nous entendre, on va reconduire les contrats. Alors les autres, nous allons trouver sur place la solution.
Nous poursuivons ce journal avec l'Union européenne qui met en garde contre un recours disproportionné à la force pour mettre fin aux violences meurtrières au Bas-Congo. Les actes perpétrés par des adeptes du mouvement Bundia Congo sont inacceptables et il est légitime que l'État fasse respecter son autorité sur l'ensemble du territoire, affirme la présidence slovène de l'Union européenne dans son communiqué publié hier lundi. Mais ce maintien de l'ordre doit se faire dans le respect des principes de l'État de droit et des droits de l'homme et sans recours disproportionné à la force afin d'éviter une radicalisation de la situation, ajoute-t-elle. L'Union européenne encourage l'ouverture immédiate du dialogue entre les autorités de l'État et les représentants politiques de Bundia Congo. Seul un véritable dialogue et la recherche active d'une solution pacifique permettront en effet d'éviter que ces événements ne se reproduisent, renchérit le communiqué. À suivre dans quelques instants, un creuseur clandestin broyé ce week-end dans les engrenages d'une machine de l'usine de la minière des Bakwanga au Kasaï oriental. Mais avant, voici l'actualité en plus bref. En sport, Coupe du Congo de football, la province du Bandundu connaîtra son représentant à la phase finale de la 44e édition cet après-midi. Ce sera à l'issue du match qui opposera au stade 6 mai de Bandunduville l'équipe locale de Malebo à Vutuka de Kikwit. En dehors de nos frontières, le président zambien Levi Mwanawasa a annoncé la suspension des taxes sur les équipements favorisant les économies d'énergie afin de remédier à la pénurie d'électricité à laquelle est confronté le pays. Dans un message à la nation diffusé par la radio-télévision publique hier soir, le président Mwanawasa a averti que le rationnement de l'électricité était inévitable à cause de la pénurie qui touche la plupart des pays d'Afrique australe.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Avant d'arriver aux infos de l'ensemble du pays, notez que le programme alimentaire mondial PAM a besoin de 6 millions de dollars américains. C'est pour venir en aide aux 90 000 Burundais censés rentrer au Burundi en juin prochain. Ils doivent venir de la Tanzanie après un accord conclu entre le gouvernement burundais et celui de la Tanzanie sur le retour des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. De Bujumbura, Chantal Gatoré.
Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a fait ce lundi une demande d'intervention à la communauté internationale à raison de 6 millions de dollars américains pour que l'aide alimentaire de cette agence onusienne puisse être maintenue pour les 90 000 Burundais réfugiés qui doivent quitter la Tanzanie d'ici la mi-juin. Le PAM a besoin de cette somme d'argent pour assurer les besoins vitaux des rapatriés selon son porte-parole Isor Netrouye. Une commission tripartite constituée du Burundi, de la Tanzanie et du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) s'est entendue sur le retour de tous les réfugiés au Burundi. C'était en 2007. Le PAM porte assistance à 600 000 Burundais qui sont en besoin urgent de vivre. Il affirme qu'il a besoin aujourd'hui de 20 millions de dollars américains pour satisfaire les besoins à vivre des sinistrés burundais. Et dans le monde, le PAM prévoit de nourrir 70 millions de personnes dans 80 pays. De Bujumbura, Chantal Gatoré pour la Radio Okapi.
Nous poursuivons ce journal avec vous, René Capita. Nous commençons en Ituri, dans la province orientale, où l'ONG internationale Première Urgence vient de réhabiliter le tronçon routier Mambasa-Mumbere, reliant le territoire de Mambasa à 135 km de Bunia et le district du Haut-Ouélé.
Les travaux de réhabilitation ont consisté notamment à la reconstruction des canalisations d'eau à couvrir les grands bourbiers et d'autres nids de poules. Selon l'administrateur assistant du territoire de Mambasa chargé de l'économie et finances, le trafic routier était devenu difficile sur ces tronçons depuis le début de cette année, alors que sa dernière réhabilitation remontait à 2 ans. C'est par cette route que la ville d'Isiro est approvisionnée à bien des premières nécessités.
Au Kassai occidental, durcissement de la grève des agents de la régie des eaux à Kananga.
Ce malgré l'intervention des autorités provinciales qui souhaitent l'organisation d'un service minimum, selon Alexandre Ngalamouloumé, le président de la délégation syndicale, les agents conditionne la reprise du travail par le paiement des 54 mois d'arriéré des salaires et l'envoi des carburants par la direction générale pour la reprise de l'exploitation. Du côté de l'employeur, la direction provinciale déclare avoir transféré les revendications des travailleurs à la hiérarchie. En ces temps, la population se ravitaille en eau aux sources.
Au Kassai-Oriental, un creuseur clandestin a été broyé ce week-end dans les engrenages d'une machine de l'usine de traitement des diamants au polygone minier de la Niba.
La victime faisait partie d'un groupe de 5 creuseurs clandestins qui se sont infiltrés 3 jours avant dans l'usine centrale. En plus de ces morts, 3 membres de ce groupe ont été arrêtés alors qu'un autre est en fuite. Du coup, cette mort atroce soulève la question de l'insécurité au polygone de la Niba. Les responsables de la police et de la MIBA se renvoient quant à eux la responsabilité.
Des sources policières, ce groupe de creuseurs clandestins infiltrés à l'ancienne usine centrale a été surpris avec plus de 250 pièces de diamants. Mais la valeur de ce colis n'est pas estimée. Les services de la police provinciale qui assurent le deuxième cordon de surveillance dans des endroits stratégiques pointent du doigt les agents de la MIBA de travailler en complicité avec le creuseur clandestin. Patience Mouchidiav, inspecteur provincial de la police.
La MIBA doit nous aider. La MIBA doit être claire. Comment est-ce que les clandestins se retrouvent dans l'usine centrale de la MIBA? Si l'usine centrale est gardée par les services de sécurité de la MIBA.
Sans démentir la police, l'administrateur délégué général adjoint de la MIBA, de son côté, affirme que la complicité est à tous les niveaux. Christine Toussaint déclare que les services sécuritaires ont également une part de responsabilité.
Il doit avoir certainement donc de l'intelligence à tous les niveaux et au niveau de la ceinture extérieure, ainsi qu'au niveau propre donc des agents internes. On envisage de confier la sécurité à une maison spécialisée extérieure.
La MIBA annonce cependant le renforcement des mesures de sécurité et la police dit avoir ouvert une enquête en vue d'identifier les commanditaires de ce coup. Bujimai Mikemputu, Radio Kapi.
Et puis en province orientale, remise dimanche dernier par la Société africaine de bois d'un lot de vivres et non-vivres aux chefs coutumiers de Yapengo, Yagunga, Djabir et Yaboila, des villages du territoire d'Isangi à 125 km de Kisangani en aval du fleuve.
Chaque communauté a reçu notamment 10 vélos, 5 machines à coudre, 25 bêches, 60 machines, 10 sacs de sel et de sucre, ainsi qu'un montant de $300 américains. Selon l'administrateur du territoire, il s'agit là d'un premier pas des SAFBOIS dans la mise en application du cahier des charges signé en octobre dernier entre les deux parties. La même source rapporte que plusieurs travaux d'intérêt communautaire, notamment la construction des centres de santé, d'écoles et des bureaux des localités, ainsi que la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles sont consignés dans ce cahier des charges.
À Kindu, dans le Maniema, depuis bientôt 4 jours, le prix de la bière Primus a augmenté de près de 30%. Elle va de 1200 francs à 1500, voire 1700 francs congolais.
Les responsables de la Braliment expliquent cette hausse de prix par deux raisons. D'abord, l'incendie du dépôt des Braliments survenu il y a un mois. Ensuite, la destruction des 3 moteurs de la balinière des Braliments dans une autre incendie survenu 2 semaines après. Toujours selon la même source, on peut aller jusqu'à l'absence totale de la bière à Kindu, le temps qu'on trouve d'autres moteurs pour que la balinière des Braliments puisse descendre à Ubundu pour récupérer cette marchandise.
Poursuivons dans la province de l'Équateur, ouverture hier de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de cette province.
L'ordre du jour de cette session prévoit notamment des questions relatives au développement de l'Équateur et l'examen des points qui n'ont pas pu être traités au cours de la session précédente, a affirmé le président du bureau de cet organe législatif de la province de l'Équateur. Une vingtaine de députés de l'Union pour la Nation sur les 108 que compte l'Assemblée provinciale ont pris part à cette cérémonie. Malgré que le président Edmond Mondombo se soit félicité de l'apaisement du climat entre les députés UN et AMP, la cérémonie a été marquée par une absence très remarquée dans la salle des députés provinciaux membres de l'AMP.
La famille politique AMP avait suspendu sa participation et il avait adressé une lettre au bureau de l'Assemblée. Cette lettre, le président a répondu malheureusement, ils n'ont pas encore reçu ça. Ils ont demandé, ils m'ont même confié cette tâche de parler avec le bureau avant les travaux. qu'il y ait une rencontre pour essayer un peu de planifier certains points de vue. Nous attendons l'arrivée de notre coordonnateur honorable Mokoma. Nous attendons aussi tous les décideurs de la famille politique en paix au sein de l'Assemblée. Il y aura un pour parler. Mais moi, je me suis présenté non comme député, mais comme membre du bureau. Je dois respecter la constitution de notre pays, respecter le règlement intérieur. C'est pour cette raison que j'ai participé. Mais quand la famille politique se réussit, et que si peut-être on ne trouve pas un compromis, ce qu'ils vont me dire, je vais m'y soumettre. Mais pour le moment, c'était l'ouverture seulement, on n'a pas commencé les travaux.
René, faut-il demander préalablement une autorisation à l'autorité urbaine ou l'informer simplement pour organiser une manifestation publique?
La question est au centre de la discussion au palais du peuple entre les députés et les sénateurs. Les parlementaires sont appelés à lever l'option sur les contradictions autour des régimes des manifestations publiques en RDC. C'est les résultats attendus du séminaire d'information et de sensibilisation qu'organise la Fondation Konrad Adenauer, le Conseil national des ONG de développement du Congo, ainsi que la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Depuis hier lundi jusqu'au 19 mars, députés et sénateurs seront sensibilisés à la promotion de la liberté d'association et des manifestations en RDC.
Enfin, l'opération de vérification des listes des entités à problème dans le district du Kwilu au Bandundu vient de toucher à sa fin.
Il s'agit pour la section électorale Monikikwit et les délégués de la commission électorale indépendante venus de Kinshasa de recueillir sur place à Gungu, Feshi, Massimanimba, Bulungu et Kaemba les données nécessaires pour le bon déroulement des élections à la base. Les données ont consisté à l'identification des groupements, à la correction de certaines erreurs telles que les noms mal orthographiés, des villages non existants et la mise en place d'une liste définitive de ces entités.
Merci René, merci également à vous chers auditeurs, bonne suite de programme sur Radio Capi.
Au Capi.